Bonjour à toutes et à tous. Christophe Joubien pour vous accueillir dans Libre Propos, l'émission hebdomadaire de Radio Grand Ciel qui nous permet d'entendre la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christori, sur des sujets de société, sujets d'église ou pas d'ailleurs. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe, heureux de vous retrouver.
Nous allons parler de la visite du pape François en Afrique du mardi 31 janvier au 5 février, cinquième voyage en Afrique. Il a visité notamment la République démocratique du Congo et il y a eu ces moments de folie avec 1 million de fidèles assistant à la messe à Kinshasa. Aucune star du rock international n'est capable d'accueillir 1 million de personnes.
Alors oui, c'est un voyage qui est très touchant. D'abord parce que le pape François, on le sait, est quand même fatigué. On sait qu'il a des problèmes de jambes, de genoux, qu'il est souvent en chaise roulante à cause de ça. Il ne cache pas cette fatigue, même si on sent qu'il a envie d'un message fort pour aider le monde. Alors, j'ai un peu... D'abord, ce pays, je ne le connais pas, la République démocratique du Congo, c'est un pays gigantesque puisqu'il touche l'Atlantique, un peu en dessous du Gabon, et puis il va jusqu'au Rwanda à l'est, qui est vraiment l'Afrique de l'Est, et au nord-est, il touche le Soudan du Sud. Et moi, j'ai travaillé au Soudan du Sud, j'ai travaillé un an sur ces terres difficiles, donc ça me rapproche un peu de mon histoire. C'est un pays de plus de 100 millions d'habitants, la moitié sont catholiques, et c'est un pays très riche en ressources, beaucoup de forêts gigantesques autour du fleuve Congo, des richesses minières considérables. Mais c'est un pays dont la partie S, notamment le Kivu, la partie des lacs, côté du Rwanda, du Burundi, où des milices sont actives à la solde de pouvoirs extérieurs comme le Rwanda pour l'or, même aussi la Russie avec la présence de Wagner aussi. Et donc il y a à la fois la joie de ce pays qui reçoit le pape, hein, cette messe incroyable à Kinshasa, mais par exemple il y avait une messe prévue dans l'est du pays qui a été annulée parce que la sécurité du pape ne pouvait pas être garantie eu égard à toutes ces milices. Par contre, moi, j'ai lu aussi des comptes rendus, des témoignages de rescapés des terres, justement, qui sont occupées par ces milices d'une méchanceté rare, avec des témoignages de viols, d'esclavage sexuel, d'amputations, de massacres et même de cannibalisme que les milices imposent à leurs prisonniers de manger la chair de leurs propres frères qu'ils ont massacrés devant eux, sous peine d'être tués à son tour. Enfin, des choses qui sont abominables. Et le pape a eu ces cris, ces paroles de pleurs en disant que c'était une honte pour toute l'humanité et que le monde ignorait cela, que les politiques de nos pays ignoraient cela, n'en parlaient pas, alors que c'est une réalité absolument déshumanisée qu'il rencontre à travers ces témoignages. Ouais. C'est dramatique de voir ça. On estime qu'il y a eu depuis 30 ans plusieurs millions de morts dans ce pays, avec des pouvoirs politiques, Mobutu, Kabila, et maintenant un nouveau président, mais qui n'est pas le fruit de l'élection, qui, d'après l'Église, a été manipulé, truqué. Donc des pouvoirs politiques assez iniques. Et l'Église a un rôle aujourd'hui, même si elle n'a pas de pouvoir militaire avec elle, un rôle moral très fort pour lutter pour la justice, la démocratie. Et les évêques de ce pays ont montré un vrai courage, un courage très fort, pour prendre la parole, parfois contre le pouvoir en place, qui s'est montré plusieurs fois violent, au point de réprimer des grandes manifestations dans le sang. Donc on sait que ce pouvoir peut être très violent.
Ouais. Et le pape a également dénoncé ce qu'il appelle, entre guillemets, le colonialisme économique. C'est-à-dire que, évidemment, les puissances étrangères dont nous faisons partie, hein, dans l'histoire de la France, évidemment, il y a eu cette saignée à blanc du continent africain.
C'est la Belgique qui était le pays qui a colonisé ce pays-là. C'est vrai qu'on a des tas de pays qui lorgnent, mais qui lorgnent terriblement sur ces pays-là, qui veulent chasser, par exemple, la France de, du pays comme le Burkina ou le Mali, mais parce qu'ils veulent mettre la main sur le pays. C'est la Russie, et la Russie veut bien que la Chine envahit ces pays, envoie énormément de monde dans ces pays-là, de manière intraitable, au sens que le but, c'est bien de faire de l'argent avec les ressources locales, et laisser les miettes au peuple en engraissant bien la patte de quelques dirigeants. Donc oui, ça continuera. C'est l'argent pervertit assurément le pouvoir. Et malheureusement, on sent des pays qui ont des capacités, qui ont des gens magnifiques, qui ont des talents incroyables, mais qui sont bloqués dans leur développement à cause de ça.
Ouais. Parlons de des manifestations contre la réforme des retraites. Il y en a eu deux au moment où on enregistre cette émission. Gros succès de cette manifestation. On a l'impression que l'ensemble des Français est résolu à ne pas réformer, en tout cas obtenir le retrait de cette réforme des retraites. Quelle que soit d'ailleurs finalement l'appartenance politique des manifestants, il y avait toutes sortes de personnes. Hein, dans...
Je ne sais pas trop quoi penser, pour être franc. Assurément, il y a un coût. Et on ne peut pas dire qu'un système qui a été élaboré quand on avait un retraité pour quatre actifs peut continuer avec maintenant un retraité pour 1,7 actifs. Donc c'est sûr qu'il faut réformer quelque chose, tout en garantissant aux gens des retraites dignes, et certaines ne sont pas dignes, ont trop peu. Après, moi, je m'interroge aussi sur le travail. Est-ce que on doit faire le même métier? Quelques-uns ont des métiers effectivement qui usent le corps plus que d'autres, des métiers physiques, des métiers dans des conditions de travail qui sont complexes. Faut-il une deuxième carrière plus facile pour permettre de travailler plus longtemps mais dans des bonnes conditions? Est-ce qu'on peut renouveler le travail des gens pour qu'ils puissent continuer à travailler? Ce qui d'ailleurs souhaiteraient cela, hein. La retraite n'est pas forcément le paradis. On peut se retrouver seul, on peut se retrouver sans activité, on peut se retrouver un peu en déshérence, hein, et ça peut durer longtemps. Les gens ont des talents à 60 ans encore à donner. Ce que je vois, c'est que notre pays est assez dur à réformer. On a le sentiment que dès qu'il y a quelque chose qui doit bouger, on a une petite minorité, notamment par les syndicats, qui sont capables de bloquer le pays et donner l'impression que tout le monde est contre la réforme. Après tout, dans la rue, c'est beaucoup, 1,2 million de personnes qui manifestent, mais c'est jamais que... même pas 2% des Français. Donc,
néanmoins, les sondages laissent apparaître quand même un refus, hein, des Français.
Je sais
sondage
pas,
en sondage, on
je
a
sais, je ne sais pas que ce que les Français refusent. Je ne sais pas qui est interrogé. Moi, on ne m'interroge jamais, donc je ne suis pas dans les sondages. Moi, j'ai une retraite à 75 ans, donc je vais continuer à travailler, j'espère, dans de bonnes conditions, pour aider ceux qui attendent de moi, que je sois évêque à côté d'eux. Ce qui me semble dommage, c'est que le travail n'est plus vu comme un bienfait pour l'être humain, et qu'on voit des lycéens qui se plaignent déjà que leur retraite ne sera pas celle qu'ils veulent. Mais quand on est lycéen, on ne pense pas à sa retraite, on pense à développer un projet, on pense à créer, on pense à travailler, j'espère. Et donc c'est un peu absurde d'anticiper 60 ans, 50 ans avant sa retraite, par un point de vue aussi affirmé. Bon, je suis perplexe. Je laisse le gouvernement assumer sa mission. Mais je pense que le travail est une belle chose, qu'il faut aider à vivre dans de bonnes conditions.
Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a présenté mercredi dernier son projet de loi sur l'immigration, et pour la faire passer tant la main au parti Les Républicains. Ce projet de loi permettra, entre autres, au gouvernement d'accélérer le rythme des expulsions et de faire en sorte que les OQTF soient systématiquement appliquées. C'est donc les obligations à quitter le territoire français, les OQTF. Que pensez-vous de cette loi, Monseigneur ?
Blablabla. Je pense que c'est comme la chanson parole, mais de toute façon, moi, on me disait que quelqu'un de très placé au niveau de la de la police me disait que de toute façon, quand quelqu'un ne veut pas monter dans l'avion, il ne monte pas dans l'avion. On ne peut pas le monter de force dans un avion, de toute façon. Donc, renvoyer les OQTF, je ne sais pas comment ça peut se passer mieux. Ce que je vois, c'est qu'il faut peut-être qu'on ait aussi une politique qui soit sensée par rapport aux gens qui migrent. Et il y en aura encore beaucoup qui chercheront à bouger, je pense, de plus en plus. D'abord, les pays d'où viennent les migrants sont quand même des pays très peuplés. On parlait du Congo à plus de 100 millions de personnes. Une partie d'entre eux, même petite, voulant venir en Europe, c'est déjà beaucoup, beaucoup de monde. Et ils passeront d'une façon ou d'une autre la mer Méditerranée. Après, je trouve que peut-être qu'on n'a pas les bonnes dispositions pour les accueillir avec à la fois respect et exigence. En Suède, on m'expliquait qu'il fallait prendre des cours de suédois, s'intégrer dans différentes catégories de situations avant d'obtenir un numéro de sécurité sociale qui permettait de débloquer l'achat d'un téléphone portable, un compte en banque, etc. Donc il y avait une sorte d'exigence forte de tout migrant qui prétendait demeurer dans le pays. Par exemple, moi j'ai toujours pensé absurde de dire à des gens, vous pouvez être en France le temps qu'on étudie votre dossier, donc vous avez un papier qui vous dit vous êtes autorisé à être dans le territoire, ça va durer un an, vous ne pouvez pas travailler. Alors les gens, ils font quoi? Ils zonent, ils font du travail au black, ils errent, ils sont peut-être pris dans des logements très insalubres où ils rencontrent une forme de mafia qui va les détourner du bien, en tout cas pour une partie d'entre eux, alors que si on donnait par exemple un CDD temporaire de migrant en disant vous avez le droit à travailler jusqu'au jour où on valide ou non votre intégration comme migrant, comme le gars il aurait, je sais pas, un sort de CDD à mi-temps, on lui donne une petite enveloppe mensuellement comme c'est le cas d'argent et puis on lui permet d'avoir une vie digne. De nous-mêmes, l'Église, on pourrait embaucher des gens à mi-temps pour faire un travail d'accueil, un travail de nettoyage, un travail de je sais pas, technique, par exemple. Et j'ai souvent pensé quand j'étais curé de paroisse, sauf qu'on n'a pas le droit parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. On aurait une sorte de CDD temps partiel limité au temps d'instruction de leur dossier. Après ça, on validerait que le dossier est valide, ils pourraient continuer du coup à travailler. Ça serait déjà une aide pour donner un peu de décence. Et éviter qu'on ait l'impression qu'on est envahi de migrants qui sont là inopérants et surtout encombrants et parfois qui font le mal, quoi. Mais on leur donne pas toutes les chances. Donc je pense qu'il y a un truc qui va pas à ce niveau-là.
Merci beaucoup, Monseigneur. Cette émission est terminée. Je précise à nos auditeurs et auditrices qu'ils pourront la réécouter en podcast sur www.radiograndciel.fr. Merci à Simon Martin en régie technique. Et à la semaine prochaine.
Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir. De ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure. Sacré, Père, Fils et Saint-Esprit, ton amour est pour moi le plus grand des trésors.